Féroé Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Il est 7h en temps universel. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 25 octobre 2023. Au micro, Nanit Kalani. Bonjour à tous et à tous. Voici les principales axes de cette édition. Plus de 189 Sénégalais ont été secourus au large de Dakhla, au Sahara occidental. George Weah en tête, Boakai en seconde place. Le Liberia se prépare au second tour de la présidentielle. Scandale du sirop contre la toux ayant tué plusieurs enfants en Gambie. La justice ouvre un procès. Au Nigeria, le manque de médecins met en péril le système de santé. Le gouvernement fait appel aux médecins retraités pour combler le manque de personnel. Ce sera dans la section magazine. Encore des morts à Gaza, des appels se multiplient pour une pause humanitaire. Ici aux États-Unis, Tom Emmer, inconnu du grand public, devient candidat surprise à la présidence de la Chambre des représentants. Et puis l'ouragan Otis, potentiellement catastrophique, touche terre à Acapulco au Mexique. Et puis dans moins de 10 minutes, la page économique et le sport. Mais en attendant, voici le journal. La marine marocaine a repêché 3 corps de migrants et porté secours à 189 autres, tous sénégalais, alors qu'ils étaient à bord de 2 embarcations en difficulté au large de Dakhla au Sahara occidental. Les 2 embarcations qui ont pris respectivement la mer les 2 et 17 octobre 2023 à partir des côtes sénégalaises comptaient se rendre aux îles Canaries, d'après une source militaire qui s'est confiée à l'agence marocaine de presse MAP. L'ONG Global Witness accuse l'entreprise chinoise Congo King Beijing Forestry Development d'abattre illégalement du bois en RDC et la Chine, malgré ses engagements internationaux, de ne pas lutter contre la déforestation en dehors de ses frontières, dans un rapport publié ce mercredi. Cette entreprise a exporté pour plus de 5 millions de dollars de bois illégal de la RDC vers la Chine en 6 mois, entre juin et décembre 2022, affirme l'ONG britannique. Au Liberia, le président sortant George Weah va affronter au second tour, le 14 novembre, son principal rival, Joseph Boakai. La Commission électorale nationale a annoncé hier les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Les détails avec Jean-Roger Bion.
George Weah a recueilli 43,83% des voix lors de l'élection du 10 octobre. Joseph Boakai a obtenu 43,44% des voix, a déclaré Davidetta Brown-Lassana, chef de la commission électorale. Aucun des 18 autres candidats n'a obtenu plus de 3%. Elle a noté que le taux de participation de 78,86% a été un record historique. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, elle annonce que le second tour est prévu le mardi 14 novembre prochain. Il s'agit d'une répétition du scrutin de 2017 qui avait vu George Weah, ancienne vedette de football, populaire parmi les jeunes, devenir président. Âgé de 57 ans, il a été critiqué après son premier mandat et accusé de ne pas tenir ses promesses. Les conditions de vie ne se sont pas améliorées pour de nombreux habitants. Les États-Unis ont sanctionné 5 hauts fonctionnaires libériens pour corruption ces 3 dernières années. M. Boakai, âgé de 78 ans, a été vice-président de 2006 à 2018. Il a été une figure importante de la politique nationale pendant près de 4 décennies. Il a promis de restaurer l'image du pays, développer les infrastructures et améliorer la vie des plus défavorisés.
En Gambie, un procès s'est ouvert hier à Banjul, la capitale, à la suite de la mort l'année dernière de jeunes enfants qui avaient pris un sirop contre la toux fabriqué par une société pharmaceutique basée en Inde. Les précisions de Lionel Gaïma.
Le juge Ebrima Jaïté de la Haute Cour de Banjul a ajourné la procédure jusqu'au 7 novembre. 19 plaignants représentant des familles de victimes ont intenté une action civile contre Maiden Pharmaceuticals, basée en Inde, son distributeur local à Candic Pharmaceuticals, l'agence de contrôle médical, le ministère de la Santé et le procureur général Daouda Diallo. Les familles réclament 15 millions de dalassi, environ 230 000 dollars par enfant à titre de dommages et intérêts. Le ministère de la Santé, l'agence de contrôle médical et le procureur général, qui étaient présents, ont demandé un report du procès qui a déjà été reporté en juillet. Le juge a rejeté cette requête et a ordonné aux trois parties de verser 10 000 dalassi aux plaignants. En septembre de l'an dernier, la Gambie a ordonné le rappel puis interdit plusieurs médicaments fabriqués par le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals, d'où provenaient les sirops frelatés après la mort de quelques 70 enfants âgés de 5 ans ou moins qui avaient pris ce médicament en vente libre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, les républicains se sont accordés hier pour désigner un inconnu du grand public, Tom Emmer, comme nouveau candidat au poste de président de la Chambre des représentants qui est vacant depuis la destitution le 3 octobre de Kevin McCarthy. Mais le plus dur reste à faire pour cet élu qui devra désormais rassembler suffisamment de voix dans un parti républicain divisé lors d'un vote en séance plénière. Le point avec Eric Manirakiza.
Tom Emmer, 62 ans, voix de l'establishment, est sorti vainqueur d'une série de consultations progressives à huis clos. S'il parvient à se faire élire speaker, ce sera le baptême du feu. Il devra aussitôt gérer les discussions pour éviter un shutdown de l'administration fédérale. Or, il serait le speaker le moins expérimenté en plus d'un siècle, n'ayant jamais présidé de commission, bien qu'il soit le numéro 3 républicain à la Chambre des représentants. Et il va devoir naviguer entre les positions de ses collègues républicains qui affichent au grand jour depuis des semaines de profonds désaccords, notamment au sujet des fonds demandés par le président Biden pour l'Ukraine et Israël. Monsieur Emmer a dit dans une lettre aux républicains avant les votes qu'il se présentait pour provoquer un changement historique. Ses alliés craignent qu'il ait du mal à s'assurer les voix des plus conservateurs et des plus trumpistes, lui reprochant d'avoir voté pour la certification de la victoire de Joe Biden à l'élection de 2020. Tom Emmer est considéré comme le choix le plus acceptable pour les démocrates, dont certains ont dit en privé qu'ils étaient prêts à s'abstenir pendant le scrutin pour l'aider à passer la ligne d'arrivée. En retour, il demanderait que M. Emmer s'engage à respecter les niveaux de dépenses convenus avec le président Joe Biden et qu'il fasse passer un texte sur l'aide à l'Ukraine et Israël.
Conflit entre Israël et le Hamas. Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce mercredi lors d'une attaque israélienne près du camp de réfugiés de Jenin en Cisjordanie. Pendant ce temps, les pourparlers s'intensifient ce mercredi pour un cessez-le-feu ou une pause humanitaire dans la bande de Gaza. Mohamedou Oufa nous en dit plus.
Un avion israélien a tiré au moins deux missiles en direction d'un groupe de personnes près du camp de Jenin, tuant trois personnes et en blessant plusieurs autres, a indiqué l'agence de presse palestinienne Wafa, citant des sources locales. L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué qu'elle avait mené des activités antiterroristes dans la région, mais n'a pas mentionné de victimes. Elle a indiqué qu'elle répondait à une attaque de ce qu'elle a appelé des terroristes armés qui ont tiré et lancé des engins explosifs sur les forces de sécurité israéliennes. En réponse, l'un de ces drones d'attaque a frappé les terroristes. Les forces de sécurité israéliennes n'ont pas été blessées, a ajouté l'armée. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé mardi à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et condamné les violations claires du droit humanitaire dans le territoire palestinien. Ces déclarations se sont attirées une violente réaction du ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, qui a décidé d'annuler une rencontre prévue avec M. Guterres. Les États-Unis estiment qu'un cessez-le-feu ne bénéficierait qu'au Hamas. Toutefois, des pauses dans les combats pour faciliter l'acheminement de l'aide doivent être considérées, a nuancé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, tandis que le président Joe Biden a estimé que l'acheminement de l'aide n'était pas assez rapide.
Le puissant ouragan Otis, potentiellement catastrophique, a touché terre. Dans la nuit de mardi à ce mercredi, près d'Acapulco, la célèbre station balnéaire du Pacifique dans l'ouest du Mexique, indique le Centre national des ouragans américains. Ce dernier évoque des vents pouvant souffler jusqu'à 270 km par heure. À présent, voici les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs avec Mouhamadou Oumpa.
Le Nigeria vise à réduire le nombre de taxes prélevées par le gouvernement fédéral et les États à moins de 10 contre plus de 60 taxes et impôts officiels collectés actuellement, a déclaré le comité de réforme fiscale pour encourager les affaires et augmenter les recettes. Les investisseurs citent souvent les nombreuses taxes et de multiples agences de collecte de revenus du Nigeria comme étant des facteurs qui augmentent le coût des affaires et découragent l'investissement. La société publique botswanaise Odyssey a temporairement interrompu ses ventes de pierres brutes dans le cadre d'une initiative visant à réduire la surabondance des stocks causée par la baisse de la demande mondiale de bijoux, a déclaré mardi son directeur général. L'Odyssey, qui a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,1 milliard de dollars en 2022, organise 10 ventes aux enchères par an pour vendre les 25% de la production d'une co-entreprise entre les De Beers EELL d'Anglo-American et le Botswana. La demande mondiale de combustibles fossiles devrait atteindre son maximum d'ici à 2030 en raison de l'augmentation du nombre de voitures électriques et de la croissance plus lente de l'économie chinoise qui s'oriente vers des énergies plus propres. C'est ce qu'affirme l'Agence internationale de l'énergie, alors que l'OPEP estime que la demande de pétrole augmentera bien après 2030 et appelle à des milliers de milliards de dollars d'investissements dans le brut.
Et maintenant, l'actualité sportive avec Eric Manirakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Nanit.
Pour commencer, Ligue des Champions. Le Bayern, bousculé, poursuit son sans-faute à Galatasaray.
Bousculé pendant plus d'une heure, le Bayern Munich a dû s'employer pour venir à bout de Galatasaray. 3-1 hier mardi à Istanbul. Lors de la troisième journée de la Ligue des Champions, faisant un grand pas vers les huitièmes de finale. Avec 9 points au compteur après 3 journées, les hommes de Thomas Tuchel prennent le large en tête du groupe A, qui compte également Copenhague et Manchester United, mal en point après 2 défaites lors des 2 premières journées.
L'Inter Milan se fait peur.
L'Inter Milan est toujours invaincu cette saison en Ligue des Champions après sa victoire laborieuse 2-1 à domicile face au RB Salzbourg mardi lors de la troisième journée. Pendant 7 minutes, Simone Inzaghi a sans doute regretté d'avoir choisi de faire tourner son effectif et de laisser notamment sur le banc Marcus Thuram. Piqués au vif, les leaders du championnat d'Italie n'ont mis donc que 7 minutes pour reprendre l'avantage sur un pénalty. Avec 7 points, l'Inter est dans les temps pour atteindre les huitièmes de finale. En 2022-2023, le club avait atteint et perdu la finale de la Champions League face à Manchester City.
Des heurts entre supporters du PSG Eindhoven et la police avant le match à Lens.
Des échauffourées ont éclaté entre supporters du PS Eindhoven et forces de l'ordre hier mardi à Lens, avant le match de Ligue des Champions entre les deux clubs. Les premières altercations se sont produites lorsque plus de 200 supporters du club néerlandais ont commencé à se déplacer dans le centre-ville. Des incidents ont éclaté entre forces de l'ordre et ultra néerlandais. La police faisant usage de gaz lacrymogène pour disperser des supporters très mobiles face à des jets de projectiles et de fumigènes.
Pour terminer, Eric, ce choc crucial entre le PSG et l'AC Milan, City et Barcelone pour dérouler.
Le Paris Saint-Germain accueille l'AS Milan pour un choc crucial dans le groupe de la mort, tandis que Manchester City à Berne et Barcelone contre le Shakhtar Donetsk viseront une 3e victoire de suite ce mercredi lors de la 3e journée de Ligue des Champions. L'attaquant international français de l'AS Milan, Olivier Giroud, a estimé que son équipe devait être plus agressive et tueuse dans la surface face au Paris Saint-Germain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nanit Talani de retour pour nos dossiers du jour. La fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger fait beaucoup de mécontents. Les transporteurs et opérateurs économiques vivent une situation difficile et appellent le gouvernement béninois à ouvrir les frontières pour sauver les millions de familles. Les détails avec notre correspondant à Cotonou, Ginette Fleur Adondé.
Le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger il y a 2 mois en soutien aux décisions prises par la CEDEAO pour dénoncer le coup d'État et exiger le retour à l'ordre constitutionnel. La situation n'a pas changé et les répercussions sont énormes sur les transporteurs nigériens et béninois. Ali Alassane Baboni est le président du collectif des transporteurs de marchandises du Bénin.
Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à subvenir à nos besoins, nous n'arrivons pas à nourrir nos familles, nous n'arrivons pas à vivre en société comme les autres. Et ce qui nous fait peur, l'après l'ouverture des frontières, qu'allons-nous devenir? Quel sera le sort réservé à nos camions, à nos conducteurs? Et quel sera le sort réservé à nous-mêmes face aux importateurs qui ont cette marchandise? Beaucoup de marchandises sont en train de pourrir, voler, dénaturer, faute de ce que nos bâches n'arrivent plus à tenir, la pluie, le soleil, le vent. Nous nous demandons même si nos camions vont revenir à la maison.
Âgé de 35 ans, Naïmi voulait rentrer au Niger pour fêter son anniversaire avec les siens. Mais il est bloqué et se promène souvent le long du fleuve Niger, espérant pouvoir retourner chez lui un de ces jours. Il est dans un convoi de camions transportant du riz et du sucre. Il n'est plus sûr de la qualité des produits en raison des intempéries. Djibril Adam est le représentant des transporteurs nigériens vivant au Bénin.
Actuellement, nous avons plus de 10 000 et quelques camions qui sont en Manéville. Ces camions qui sont là-bas, tous ceux qui sont les camions, comme le riz et le sucre là, en tout cas, tout est gâté. Même le chauffeur, ils ont emballé donner les camions. Vraiment, ce qui se passe là, ça dépasse tout le monde. Bon. En tout cas, on demande secours. Les CDAO, là, elle est là pour les peuples. Elle n'est pas là pour mélanger les gens.
Ils sont nombreux à se dire ruinés par cette situation. Ils disent avoir l'impression que les autorités des deux pays n'ont que fait de ce drame social qui se joue sous leurs yeux. Ibrahim Boubacar est un transporteur nigérien.
Tu restes à la maison, les enfants, ils vont te poser la question. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vas pas aller au travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi, je n'ai jamais... Un jour, ça va venir comme ça. Je suis comme Dieu. Même si quelqu'un qui est en brousse là, on me suit aller aux champs pour trouver des maïs là, aller manger. Je vais venir m'arrêter devant un boutique pour me dire demain un cadeau ou bien celui qui vend crédit.
Pendant que les autorités béninoises estiment que la situation actuelle n'entache en rien les relations entre les deux pays, les transporteurs ne sont pas de cet avis. Au regard des préjudices graves subis par ces derniers, ils considèrent que même si les frontières sont ouvertes, rien ne sera comme avant. Alassane Baboni.
Il va falloir que ceux-là qui ont pris cette décision abjecte, eh bien qu'ils pensent à comment faire tout possible pour que vraiment ils arrivent à prendre en charge tout ce que nous sommes en train de subir. Il faut que la CEDEAO pense à prendre en charge les dommages que cette situation engendre. Sinon, je dirais, entre le Bénin et le Niger, eh bien, tel que les gens sont en train de menacer, il n'y aura plus de transactions entre ces deux pays-là. Si quelque chose n'est pas fait pour, ne serait-ce un temps soit peu, amoindrir, eh bien, tout ce que nous sommes en train d'endurer, surtout les opérateurs économiques nigériens.
Au Bénin, la question d'une réouverture des frontières n'est plus évoquée. Elle reste apparemment conditionnée par la prise en compte par la junte au pouvoir à Niamey des exigences de la CEDEAO dans le retour à l'ordre constitutionnel, alors que la junte semble avoir tourné définitivement la page Bazoum. De Cotonou, Ginette Fleur Adondé pour VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Togo, l'autorité de régulation des communications électroniques vient de signer un accord de free roaming avec son homologue du Bénin. Les Togolais en déplacement au Bénin, tout en conservant leur carte SIM, pourront communiquer comme s'ils étaient résidents au Bénin. De nommer notre correspondant Kossi Wousou.
Selon les institutions de régulation de communication électronique du Togo et du Bénin, l'accord signé sur le free roaming est la traduction dans les faits du règlement portant sur l'itinérance communautaire sur les réseaux de communication mobile à l'intérieur de l'espace CEDEAO. Hervé Kovi Gadegbe, directeur exécutif de l'autorité de réglementation des communications électroniques et des postes ARCEP Bénin.
Il faut dire que le règlement est un règlement de 2010. Donc le règlement est déjà en vigueur. C'est parce que les deux autorités de régulation ont relevé que la mise en œuvre n'est pas sans faille que nous sommes venus faire ce protocole. Nous avons défini les moyens de l'application effective et sans faille du règlement, mais nous avons ajouté également des éléments sur la diminution, la réduction drastique des coûts de communication entre nos deux pays.
Michel Yaouvi Gallet, le directeur de l'ARCEP Togo, donne plus d'explications à propos de la baisse des tarifs de communication.
Concrètement, les Togolais en visite au Bénin, qui payaient avant 240 francs quand ils recevaient des appels au Bénin, aujourd'hui, grâce à cet accord, ils vont dorénavant payer 0 franc CFA, du moins pendant les 30 premiers jours. En ce qui concerne les émissions d'appels, si une minute d'appel coûte 60 francs CFA à un résident béninois, le Togolais qui est en voyage au Bénin et qui émet un appel à destination au Bénin sera aussi traité de la même manière.
En ce qui concerne les services Internet mobiles, le consommateur togolais en visite au Bénin sera désormais facturé à 2,2 francs CFA, le mégaoctet, contre 8 000 francs CFA actuellement. De quoi réjouir Emmanuel Sogadji, le président de la Ligue des consommateurs du Togo.
Toute initiative qui rentre dans la satisfaction des consommateurs ne peut que nous réjouir. Vous n'êtes pas sans savoir que hier, lorsque vous allez au Bénin, vous êtes obligé de faire des gymnastiques pour avoir une carte SIM du Bénin et pouvoir appeler. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de pouvoir appeler avec nos puces, de recevoir des appels, de recevoir des SMS à des coûts très réduits.
Pour Michel Yaouvi Gallet, le directeur de l'ARCEP Togo, la concrétisation de cet accord avec le Bénin est un ouf de soulagement.
J'ai envie de dire qu'il était grand temps que nos deux institutions prennent leurs responsabilités vis-à-vis des consommateurs et en plus, cet accord est un pas géant dans le sens de l'intégration numérique communautaire en espérant vivement provoquer des émules dans la sous-région.
C'est aussi le vœu de l'Association togolaise des consommateurs qui encourage l'ARCEP Togo à réitérer de tels accords avec les autres pays voisins immédiats comme le Ghana, le Burkina Faso et les autres pays de l'espace communautaire. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Nigeria a besoin de plus de 250 000 médecins pour respecter le ratio médecin-population de l'OMS. Un médecin devrait avoir moins de 600 patients, mais dans le cas du Nigeria, un médecin en soigne plus de 3 000. Pourtant, il y a moins de 100 000 médecins enregistrés dans le pays. C'est un reportage signé Gilbert Tomba depuis Abuja.
Les autorités fédérales vont faire appel des travailleurs contractuels de la santé déjà à la retraite pour combler le manque de médecins qualifiés dans les hôpitaux publics. L'hôpital national de la capitale n'est pas épargné. Sa direction confirme que 3 à 4 infirmiers démissionnent ou quittent chaque semaine le plus grand centre hospitalier du pays pour aller travailler à l'extérieur. Dr Tayo Astrop, porte-parole de l'hôpital.
Le ministre est également perturbé par cette crise et a donné des conseils et des instructions qui concernent certains de ses personnels médicaux qui ont pris leur retraite et qui étaient déjà utiles au système pour pouvoir les réintégrer dans les hôpitaux, ce qui est pour le moment une bonne voie à suivre.
Les difficultés du système sont bien documentées et affectent la qualité des soins depuis des décennies. Selon le président du syndicat des médecins de l'hôpital national d'Abuja, il faut recruter ou faire appel à quelques 700 nouveaux médecins pour compenser le manque. Docteur Olaomaru Falawale.
Par exemple, lorsque vous arrivez dans une clinique particulière où nous avons une cinquantaine de patients à consulter, vous avez deux ou trois médecins pour 50 patients et les médecins sont aussi des humains. Et ce n'est pas facile. Vous devez prendre votre temps parce que vous pouvez passer comme une heure avec certains patients à discuter avec eux et vous serez épuisé. Et quand vous arrivez aussi aux urgences, vous pouvez voir jusqu'à 5 ou 6 cas d'urgence à la fois avec seulement un ou deux médecins.
Au moins 2000 médecins nigériens émigrent chaque année vers les pays étrangers comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, affirme l'OMS. Depuis 2019, les journaux font état d'opérations de recrutement menées par des responsables saoudiens à Lagos et à Abuja. Le secrétaire général du syndicat des médecins nigériens de la branche d'Abuja, Michael Olarewaju, pense que la décision du gouvernement fédéral de faire appel aux médecins déjà en retraite fait partie de la solution, mais ce n'est pas la solution idéale.
La solution sera d'abord et avant tout d'examiner les jeunes médecins qui cherchent à quitter en grand nombre. Vous les gardez dans le pays et comment les garder? Faites-les des propositions qu'ils ne pourront pas refuser. Vous savez que beaucoup de nos médecins quittent le pays même si c'est pour aller faire des petits boulots dans les pays développés simplement parce qu'ils ne reçoivent pas le bon salaire sur place.
72 000 médecins environ sont inscrits auprès de l'Association médicale nigérienne, même si près de 3 000 médecins sont diplômés chaque année des facultés de médecine du pays. Mais quelques 35 000 seulement exercent au Nigeria, un pays de plus de 200 millions d'habitants, soit un ratio d'un médecin pour 10 000 habitants. Plusieurs milliers de médecins nigériens ont émigré vers le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis et d'autres pays en raison d'une rémunération faible et des conditions difficiles de travail. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi et sur 102.8 FM en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, Floribert Onzuluni, l'ancien coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, figure parmi les 24 candidats que la Commission électorale nationale indépendante a retenu pour la présidentielle du 20 décembre prochain. Eddy Itsango l'a joint depuis Kinshasa, la capitale congolaise.
Nous nous sommes aujourd'hui complètement opposés, bien évidemment, au système que nous appelons de gouvernance prédateur. Nous disons aujourd'hui que depuis plusieurs décennies au final, et malheureusement ça s'est perpétué fortement depuis les dernières élections, le pays est pris en otage par un système de gestion prédateur. Vous avez donc un petit groupe de personnes qui sont principalement dans la classe politique, qui se positionnent officiellement dans l'opposition ou dans la majorité politique, dépendamment des moments, et qui ont pris en fait tout le pays en otage, qui ont pris toutes les ressources, qui détournent, qui corrompent, qui empêchent finalement le pays de se développer. Nous nous disons que notre première, la base, le socle de notre vision est de tout mettre en œuvre pour mettre un terme, comme on dit, détruire complètement ce système de gestion prédateur. On ne pourra pas reconstruire le pays sans y mettre un terme. Si vous n'arrivez pas à gérer le peu de ressources que vous arrivez à mobiliser, comment arriverez-vous à mettre en place des politiques de développement et à dégager suffisamment de ressources pour pouvoir développer dans d'autres secteurs? Trois priorités que nous avons aujourd'hui, qui sont également issues du contrat social. La première, c'est la question, bien évidemment, sécuritaire, qui varie d'un coin à un autre du pays, mais le plus important, c'est la crise à l'Est qui a les conséquences les plus importantes. La deuxième, c'est la question de gouvernance ou de la qualité, finalement, des acteurs et des dirigeants. Et la troisième, c'est la question sociale et économique.
En tant qu'activiste, vous avez souvent dénoncé les manques de transparence dans les processus électoraux, mais aujourd'hui, vous y allez quand même. Qu'est-ce qu'on peut conclure?
Oui, mais le processus électoral aujourd'hui a encore effectivement plusieurs faiblesses, comme tous les électoraux d'ailleurs passés. Mais la question est de dire, est-ce que ces faiblesses doivent faire que finalement personne n'y prenne part ou n'y prenne pas part? Nous avons dit non. Le principal moyen aujourd'hui de garantir que ce processus, malgré ses faiblesses, puisse aboutir à des résultats acceptables et que nous, citoyens, nous, aujourd'hui, acteurs politiques, mettions en place des mécanismes de contrôle, d'observation et de contrôle des résultats. Donc c'est à ce niveau-là que les choses vont se passer. Nous devons mobiliser chaque Congolais pour que chaque Congolais devienne un acteur cœur et se battent et agissent, soient mobilisés pour défendre son vote après les élections du 20 décembre prochain.
Vous étiez pendant quelques temps exilé politique. Aujourd'hui, vous êtes rentré au pays. Qu'est-ce que l'on doit conclure? La démocratie se porte-t-elle bien?
Mon retour au pays est la conséquence d'un engagement fort, citoyen, pacifique, des Congolais avant. Je vous rappelle qu'entre 2015 et 2018, les Congolais se sont fortement mobilisés au prix de beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu des personnes qui ont été blessées, il y en a d'autres qui se sont exilées, il y a eu énormément de sacrifices. Donc c'est à l'issue de ce processus que l'actuel président est arrivé au pouvoir.
Claude Ribert Anzulini, ancien coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi et candidat à la présidentielle du 20 décembre en RDC. Le Monde Aujourd'hui est aussi arrivé à son terme. Merci à vous de l'avoir suivi. Un merci spécial à Georges Léonard Sagnot qui était à la réalisation et à Kelvin Foller qui était à la console.